إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أدي le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah est bon et il n'accepte que ce qui est bon. Et Allah a certes ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux messagers. Il a dit, selon la traduction des sens rapprochés: ô vous les messagers, mangez des bonnes choses et œuvrez pieusement. Et il a dit, toujours selon la traduction des sens rapprochés: ô vous qui croyez, mangez de bonnes choses que nous vous avons attribuées. Et il a ensuite évoqué l'homme qui fait un long voyage, aux cheveux ébouriffés et pleins de poussière, tendant ses mains au ciel et disant: ô Seigneur, ô Seigneur, mais sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, son vêtement est illicite, et on l'a nourri de l'illicite. Alors comment pourrait-il être exaucé? Rapporté par Muslim. Chers frères, ceci est donc le 10e hadith de cet ouvrage de l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Et ce hadith, il aborde plusieurs sujets, comme nous allons le voir à travers son explication, incha'Allah ta'ala. Mais son thème principal est l'incitation à se restreindre à ce qui est bon et licite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dit dans ce hadith: certes, Allah est bon, c'est-à-dire qu'Allah est pur et exempt de toute déficience. Rien de mauvais ne l'atteint, ni défaut, ni déficience, et ce, quelle que soit la situation. Allah subhanahu wa ta'ala, il est donc bon de par son essence. Il est bon en ses noms et ses attributs. Il est bon dans ses jugements et en ses actes, ainsi que dans tout ce qui provient de lui, subhanahu wa ta'ala. Certes, Allah est bon et il n'accepte que ce qui est bon. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte que ce qui est bon parmi les paroles et les actes. Quant à tout ce qui est mauvais, alors cela est rejeté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah n'accepte que ce qui est bon. Et entre dans cela également les aumônes données d'un argent mauvais, d'un argent illicite. Elles sont alors rejetées et ne sont pas acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte que ce qui est bon. Et qu'est-ce qui est considéré comme bon en termes d'œuvre et en termes de bien ou d'argent? La bonne œuvre est celle qui est vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et accomplie conformément à la législation. Et l'œuvre, elle ne peut être bonne et elle ne peut être acceptée qu'en remplissant ces deux conditions: la sincérité et la conformité. La sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que l'œuvre lui soit exclusivement louée, et la conformité à la législation, c'est-à-dire que l'œuvre soit accomplie telle qu'elle est légiférée et non pas d'une manière innovée. Et toute œuvre qui ne remplit pas ces deux conditions est une œuvre rejetée. Et nous avons déjà traité ce sujet en détail lors de l'étude du premier et du cinquième hadith. On ne va donc pas le redévelopper ici, mais ceux qui n'ont pas suivi ces cours peuvent revenir aux enregistrements qui sont présents sur le site An-Nasiha. Et ce qui est bon en termes d'argent et de biens, c'est ce qui est licite en lui-même. Ce qui est licite en lui-même et qui est obtenu d'une manière licite. Et ça, c'est très important également. Quant à ce qui est obtenu d'une manière illicite, comme le vol, comme l'escroquerie, comme l'argent de riba, alors tout ceci est mauvais. Et tout ceci n'est pas accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si cela est dépensé dans les œuvres de bien, même si cela est dépensé sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. Mais il y a une exception à cela. Il y a une situation dans laquelle la personne donne en aumône de l'argent considéré comme mauvais. Et ceci est accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelle est cette situation? C'est le cas par exemple d'un homme qui a volé. Par exemple, il a volé une somme d'argent, puis il revient à Allah subhanahu wa ta'ala et veut se repentir de ce vol. Et comme vous le savez, il fait partie des conditions du repentir dans ce cas de rendre cet argent à son propriétaire. Et le repentir ne peut être complet sans cela. Mais supposons ici qu'il ne puisse pas retrouver son propriétaire. Par exemple, on va dire qu'il a volé cet argent dans un lieu public. Dans un lieu public dans lequel il y avait des centaines de personnes. Il lui est impossible de savoir à qui appartient cet argent et de retrouver ces personnes qui étaient présentes. Alors dans ce cas, il donnera cet argent en aumône. Mais avec quelle intention? Avec l'intention que la récompense de cette aumône, elle revienne au propriétaire de cet argent. Et dans ce cas-là, ceci est accepté, incha'Allah ta'ala. Et bien sûr, comme on l'a dit, ceci n'est permis que dans le cas où il est dans l'incapacité de rendre ses biens ou cet argent à leur propriétaire. Sinon, la base est de leur rendre. Après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et Allah a certes ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux messagers. » C'est-à-dire que les croyants ont un rang éminent et qu'ils sont dignes de recevoir des ordres tels que ceux adressés aux messagers alayhim salatu wa salam. Allah subhanahu wa ta'ala a donc dit au sujet des messagers, selon la traduction des sens rapprochés, « Ô vous les messagers, mangez des bonnes choses et œuvrez pieusement. » Allah leur a donc ordonné dans ce verset de manger des bonnes choses qui correspondent à ce qu'Allah a rendu licite pour eux et qui est obtenu de façon légiférée. Donc, ce qui n'est pas licite, comme le porc par exemple, il n'est pas permis d'en manger. Et de la même manière, ce qui est licite en soi, mais qui est obtenu de façon non légiférée, alors il n'est pas permis d'en manger. Et pour clarifier ces deux situations, on va donner l'exemple d'un mouton. Dans le premier cas, on a un homme qui achète un mouton. Puis ce mouton meurt. Sa viande, elle est donc considérée comme illicite. Pourquoi? Car c'est une bête morte et Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de manger la bête morte. Il n'a donc pas le droit de manger de sa viande. Et la viande de ce mouton est donc interdite en elle-même. Elle est interdite en elle-même. La deuxième situation, c'est le cas d'un homme qui vole un mouton. Puis il égorge ce mouton de façon légiférée en mentionnant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors la viande de cette bête, elle n'est pas licite pour lui. Pourquoi? Car il l'a obtenue de façon non légiférée. Il l'a volée. Il n'a donc pas le droit d'en manger. Même si la viande, elle n'est pas interdite en elle-même, mais elle est interdite de par la manière dont il l'a obtenue. Donc si cette viande, il la rend à son propriétaire, alors ce propriétaire, lui, il pourra la manger car elle est licite pour lui, étant donné que ce mouton lui appartenait. Il faut donc bien distinguer entre ces deux situations et veiller à ne manger que de ce qui est licite en soi, mais aussi licite dans la manière de l'obtenir. Après avoir ordonné aux messagers de manger de bonnes choses, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il leur a ordonné? Il leur a ordonné d'œuvrer pieusement. Et il a précisé que ses œuvres devaient être pieuses en disant « œuvrer pieusement », c'est-à-dire d'accomplir des œuvres pieuses. Et comme on l'a dit, l'œuvre pieuse est celle dans laquelle sont réunies la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala et la conformité à la législation du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et toute œuvre qui ne remplit pas ces deux conditions n'est pas une œuvre pieuse et elle n'est pas acceptée. On voit donc que la finalité, ce n'est pas l'œuvre en elle-même. Ce n'est pas que tu œuvres en soi, mais la finalité est de parfaire ton œuvre en l'avouant exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, en t'éloignant de toute forme de shirk, que ce soit le shirk, le polythéisme, majeur ou mineur, comme l'ostentation par exemple, ou la recherche des éloges des gens. Et également, tu dois accomplir tes œuvres conformément à la législation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en t'écartant de toute innovation et de toute chose nouvelle en religion. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné un deuxième verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet des croyants, selon la traduction des sens rapprochés, « Ô vous qui croyez, mangez des bonnes choses que nous vous avons attribuées. » Il a donc ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux messagers, alayhim salatu wassalam. Les croyants, ils sont donc soumis à cet ordre comme les messagers, alayhim salatu wassalam. Et il a ensuite évoqué, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ensuite évoqué l'homme qui fait un long voyage. Et comme vous le savez, le voyage est une des causes de l'exaucement des invocations. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique qu'il y a trois personnes dont les invocations sont exaucées et parmi eux, il a dit, le voyageur. Donc le voyage, il fait partie des causes de l'exaucement des invocations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ensuite décrit cet homme. Et il a dit que cet homme était aux cheveux ébouriffés, c'est-à-dire les cheveux non peignés, et plein de poussière sur lui, à cause de son voyage. Et ceci nous montre qu'à ce moment, il n'a pas donné d'importance à sa personne. Et il n'a pas donné d'importance à son aspect. Mais il s'est concentré sur quoi ? Il s'est concentré sur son invocation. Et il lui a accordé toute son attention, tendant ses mains au ciel, tendant ses mains au ciel. Et ceci fait partie des bienséances relatives à l'invocation. Et ça fait aussi partie des causes d'exaucement de l'invocation. Comme il est venu dans le hadith, rapporté par Abu Dawud et At-Tirmidhi, rahimahum Allah ta'ala, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Certes, Allah est pudique et généreux, et il éprouve de la pudeur, lorsque son serviteur lève ses mains vers lui, de les lui rendre vides. » Donc le fait de lever les mains au ciel lors de l'invocation, cela fait partie des bienséances relatives à l'invocation, mais c'est également une des causes de l'exaucement de l'invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc dit de cet homme qui fait un long voyage, qu'il était aux cheveux ébouriffés, plein de poussière, tendant ses mains au ciel et disant « Ô Seigneur, ô Seigneur !» C'est-à-dire qu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala en s'adressant à lui, le décrivant par sa seigneurie. Et ceci est un moyen de se faire exaucer également. Car l'exaucement de l'invocation, cela fait partie des choses impliquées par la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que si tu médites sur les invocations mentionnées dans le Coran, tu verras qu'elles commencent souvent par quoi ? Par Rabbi, Seigneur. Et ceci fait donc aussi partie des bienséances relatives à l'invocation. Il a ensuite dit au sujet de cet homme, mais sa nourriture est illicite. C'est-à-dire que la nourriture qu'il mange est illicite. Illicite en elle-même ou de par la façon dont il l'a obtenue. Sa boisson est illicite, c'est-à-dire la boisson qu'il boit. Elle est illicite, illicite en elle-même ou de par la façon dont il l'a obtenue. Et son vêtement est illicite, de la même manière. Illicite en lui-même ou de par la façon dont il l'a obtenu. Et on l'a nourri de l'illicite. C'est-à-dire qu'il s'est nourri de l'illicite provenant d'autres que lui, d'une autre personne qu'il l'a nourri de l'illicite. Alors comment pourrait-il être exaucé ? C'est-à-dire qu'il est improbable qu'il soit exaucé, malgré que les causes d'exaucement soient présentes et réunies, car il a également réuni en lui quoi ? Des empêchements à l'exaucement de l'invocation. Du fait qu'il se soit nourri, abreuvé et vêtu de l'illicite. Et ce hadith, c'est donc une menace sévère contre le fait de se nourrir de l'illicite, de manger de l'illicite, de boire de l'illicite ou de s'en vêtir et ce même s'il provient d'autre que toi. Même s'il provient d'autre que toi. Ceci est donc une explication globale de ce hadith. Passons maintenant aux bénéfices que l'on tire de celui-ci. Premièrement, parmi les bénéfices de ce hadith, on compte parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, At-Tayyib, dont le sens rapproché est le bon. Allah subhanahu wa ta'ala, il est donc bon par son essence. Il est bon en ses noms et ses attributs. Et il est bon dans ses jugements et ses actes, ainsi que de tout ce qui provient de lui, subhanahu wa ta'ala. Et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les plus beaux noms. Aucun de ces noms ne contient de déficience, ni déficience réelle, ni déficience supposée. Car ces noms sont les plus beaux des noms, comme il l'a dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 180 de Surat al-A'raf, « وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى » C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Et il en est de même concernant ses attributs, subhanahu wa ta'ala. Tous ses attributs sont bons et ne contiennent aucun défaut ni aucune déficience. Et il en est de même concernant ses actes et concernant ses jugements. Ses actes et ses jugements sont tous bons. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne fait que le bien. Et ses jugements sont les meilleurs et les plus appropriés aux intérêts de ses serviteurs. C'est pour cela que les jugements d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils conviennent à toute époque, et ils conviennent à tout endroit et à toute situation. Deuxièmement, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, il y a le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala se passe largement de sa création. Il n'accepte donc d'eux que ce qui est bon. C'est pour cela que si ton œuvre contient du shirk, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'accepte pas, car elle n'est pas bonne. Et il en est de même pour l'aumône donnée avec de l'argent volé, par exemple. Allah subhanahu wa ta'ala ne l'accepte pas, car elle n'est pas bonne. Il est donc interdit de faire des aumônes avec des biens qui sont illicites ou obtenus de façon illicite. Troisièmement, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, il y a le fait que les œuvres se divisent en deux catégories. Il y a les œuvres acceptées et les œuvres rejetées. L'œuvre acceptée, c'est celle qui est bonne, c'est celle qui est pieuse, et c'est celle, comme on l'a dit, qui remplit les deux conditions que l'on a citées précédemment, la sincérité et la conformité. Quant à l'œuvre qui ne remplit pas ces deux conditions, alors elle fait partie de la deuxième catégorie qui est quoi ? Qui est l'œuvre rejetée. Et la preuve de cela, elle se trouve dans deux hadiths. Le premier, c'est le hadith Qudsi, rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, d'après Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte qu'Allah a dit, selon la traduction des sens rapprochés, « Celui qui accomplit un acte dans lequel il me donne un associé, je le délaisse, lui et son association. Je le délaisse, lui et son association. Donc l'acte dans lequel l'association est commise, qu'elle soit majeure ou mineure, c'est un acte qui est rejeté par Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'est pas accepté. Le deuxième hadith est celui que l'on a déjà étudié. Il est rapporté par Muslim rahimahullah d'après Aisha radiyallahu ta'ala anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui a accompli une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, alors elle est rejetée. » Alors elle est rejetée. Ceci nous prouve donc l'obligation pour le musulman de prendre soin de préserver ses œuvres et de préserver ses paroles de tout ce qui pourrait être la cause de leur rejet. Et notamment le shirk, majeur ou mineur, comme l'ostentation comme on a dit, mais aussi il doit prendre garde à l'innovation, et ceci afin que nos œuvres, elles soient bonnes et acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah n'accepte que ce qui est bon. Quatrièmement, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, le fait que les messagers reçoivent des ordres et des interdits, comme on l'a vu dans le verset. Et ils sont les plus parfaits des serviteurs en termes d'adoration. Et on a pour meilleur exemple à ce sujet, celui de notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il priait la nuit jusqu'à ce que ses pieds se fendissent. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné ses péchés passés et ses péchés futurs. Et lorsqu'il a été interrogé à ce sujet, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? C'est ainsi qu'était notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Médite donc sur sa situation et compare-la avec notre situation aujourd'hui. Wallahu musta'an. L'un d'entre nous est plongé dans les péchés, est plongé dans la désobéissance, mais il se sent à l'abri et pense qu'il fait partie des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme s'il avait la certitude qu'il allait entrer au paradis et qu'il était préservé de l'enfer. Regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré qu'il savait qu'il allait rentrer au paradis, malgré qu'il savait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait pardonné ses péchés passés et ses péchés futurs, il priait la nuit de cette manière, jusqu'à ce que ses pieds se fendissent. Et il priait de longues prières, comme il est rapporté dans d'autres hadiths. Comme il est rapporté qu'il priait une nuit avec Al-Baqara, Al-Nisa, Ali Imran dans une seule raka. Et que son recours, son inclinaison et sa prosternation étaient aussi longues que le temps qu'il est resté debout en récitation. Ceci est la situation de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les prophètes donc, ils ont reçu des ordres et ils ont reçu des interdits. Et ils étaient soumis à cela. Et ceci nous amène à un autre bénéfice, qui est la réfutation des gens qui prétendent, parmi les kuburites et autres parmi les gens de l'égarement, que lorsqu'une personne atteint le degré de wali, le degré d'allié d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il n'est plus soumis aux ordres et aux interdits. Ceci est un égarement évident. Comme on le voit dans ce hadith, les messagers, alayhim salatu wa salam, ils ont reçu des ordres et des interdits de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors comment autre qu'eux peut se prétendre affranchi de cela? Il n'y a pas de doute que ceci est un égarement évident. Donc, cinquièmement, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith et qui découlent du bénéfice précédent, il y a le fait que la perfection de l'homme en termes de foi et le fait qu'il atteigne le degré d'allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci ne l'affranchit pas des obligations et ne lui permet pas de transgresser les interdits, comme on vient de le dire. La perfection de l'homme en termes de foi et le fait qu'il atteigne le degré d'allié d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci ne l'affranchit pas des obligations et ne lui permet pas de transgresser les interdits. Au contraire, ceci réclame de lui encore plus d'efforts dans les œuvres et de la persévérance dans cela. Et c'est pour cela que malgré la perfection de la foi des messagers, alayhimu salatu wassalam, Allah leur a tout de même ordonné quoi? Il leur a ordonné d'œuvrer pieusement. Sixièmement, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, il y a le fait que les croyants reçoivent aussi des ordres et des interdits comme les messagers alayhimu salatu wassalam. Et plus ta foi est forte, plus tu te soumettras aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vice versa, plus elle est faible, moins tu te soumettras à ses ordres. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Et il fait partie de la compréhension de la religion que l'homme soit conscient et qu'il sache lorsque sa foi baisse ou lorsque sa foi monte. Comme l'a dit Abu Dhar, radiallahu ta'ala anhu, celui qui ne sait pas lorsque sa foi baisse ou lorsque sa foi monte, il n'est pas instruit. Il n'est pas instruit. Et le noble shaykh et l'éminent savant, Muhammad Aman al-Jami rahimahullahu ta'ala, a dit en expliquant cette parole, « Donc si tu vois que tu accours vers Allah, que tu désires ce qui est auprès d'Allah, que tu accomplis tes adorations avec entrain, que tu aimes les vertueux et que tu aimes les assises de science, tout ceci sont des signes t'indiquant que ta foi est forte et qu'elle augmente. Et si tu vois que tu te détournes, que tu es paresseux, que tu n'as pas envie de lire le livre d'Allah, ni d'évoquer Allah, si tu vois que tu régresses dans les adorations et dans le désir de ce qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ceci t'indique que ta foi a baissé, alors soigne-toi. Alors soigne-toi. » Ceci est la parole de l'éminent shaykh, le grand savant, Muhammad Aman al-Jami rahimahullahu ta'ala. Celui dont telle est la situation, qui se détourne, qui est pris de paresse, qu'il n'a pas envie de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit s'empresser de soigner son cœur. Il doit remédier à cela avant que cette maladie se propage et qu'il dérive encore plus au point de ne plus pouvoir revenir sur le droit chemin. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me préserver ainsi que vous. Septièmement, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, il y a l'ordre de manger des bonnes choses. L'ordre de manger des bonnes choses. Et on en déduit de cela un bénéfice important qui est le blâme de se priver des bonnes choses sans cause légitime, sans cause religieusement acceptable. Comme ceux qui se privent de certains délices de ce bas monde prétendant aux zuhd. Ils prétendent être des ascètes et faire preuve d'ascétisme. Et ceci est une erreur. Et c'est contraire à la pratique des salafs et à la pratique des compagnons, radiallahu ta'ala anhum. En effet, lorsque les salafs, radiallahu ta'ala anhum, wa rahimahumullah, ont conquis de nombreuses contrées, ils se sont mis à manger et à boire des choses auxquelles ils n'étaient pas habitués et qu'ils ne connaissaient pas au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils ne se sont pas privés de ces choses. Ils ne se sont pas privés de ces choses. Car comme l'ont dit les savants, l'ascétisme, ce n'est pas que tu délaisses les biens de ce bas monde et que tu ne les possèdes pas. Mais l'ascétisme, c'est que ces biens, ils ne soient pas dans ton cœur. C'est-à-dire que ton cœur ne soit pas attaché à ces biens. Et que peu t'importe que tu les possèdes ou non, si tu les possèdes, tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Et si tu ne les possèdes pas, alors tu loues Allah et tu patientes et le remercies pour la situation dans laquelle tu te trouves. C'est pour cela qu'il se peut qu'un homme, il soit le plus pauvre des hommes, mais qu'il ne soit pas ascète. Pourquoi ? Car les biens de ce bas monde, ils sont dans son cœur en réalité. Il les convoite. Il désire les biens de ce bas monde et il est triste et affligé de ne pas les posséder. Et à l'opposé, il se peut qu'un homme, il soit parmi les plus riches de ce monde, mais qu'il soit un grand ascète. Car son cœur n'est pas attaché à ses biens, mais il en profite seulement tout en reconnaissant le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Quant à celui qui s'en prive, alors qu'il les possède, alors c'est comme s'il rejetait la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme s'il rejetait les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordés. Et il n'y a pas de doute que ceci est blâmable et c'est un mauvais comportement à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est venu dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde ses bienfaits à l'un de ses serviteurs, il aime voir les effets de ce bienfait sur lui. Huitièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a l'obligation d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour les bienfaits qu'il nous accorde. Et que cette reconnaissance, elle se traduit par quoi ? Elle se traduit par l'accomplissement des œuvres pieuses. Et comment déduit-on cela dans le hadith ? On déduit cela en réunissant entre les deux versets. Dans le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit selon la traduction des sens rapprochés, « Ô vous les messagers, mangez des bonnes choses et œuvrez pieusement. » Et dans le deuxième verset, qui est le verset 172 de Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala a dit selon la traduction des sens rapprochés, « Ô vous qui croyez, mangez de bonnes choses que nous vous avons attribuées et faites preuve de reconnaissance envers Allah. » Et faites preuve de reconnaissance envers Allah. Il a donc ordonné l'œuvre pieuse dans le premier verset et la reconnaissance dans le deuxième. Ceci nous prouve que la reconnaissance, elle se traduit par les œuvres pieuses. Et comme l'ont dit certains savants, la reconnaissance, al-shukr, c'est d'obéir à celui qui t'accorde les bienfaits. C'est-à-dire d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, de te soumettre à ses ordres et de délaisser ses interdits. Et c'est ainsi que tu fais preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Neuvièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a la permission d'ordonner une chose à quelqu'un qui l'accomplit déjà. La permission d'ordonner une chose à quelqu'un qui accomplit déjà cette chose. En effet, on voit ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au messager alayhi salatu wa salam d'œuvrer pieusement. Alors qu'il n'y a aucun doute que les messagers alayhim salatu wa salam accomplissent leurs œuvres pieusement. De la même manière, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le premier verset de Surat al-Ahzab, Ya ayyuhan nabi yuttaqillah. Ô prophète, crains Allah. Il a donc ordonné à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quoi? Il lui a ordonné de le craindre. Il lui a ordonné la crainte d'Allah. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est celui qui craint le plus Allah subhanahu wa ta'ala parmi les gens. Et aujourd'hui, alors que beaucoup de gens baignent dans les péchés et la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, si quelqu'un dit à l'un d'entre nous, crains Allah, ittaqillah, quelle est sa réaction? Il s'énerve. Il s'énerve d'entendre cette parole. Et si on lui dit qu'Allah te guide, Allah yahdik, il s'énerve aussi. Comme s'il avait atteint la perfection en termes de crainte pieuse et de guider. Alors qu'en réalité, on souffre de manquements immenses et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. Quant aux messagers, alayhim salatu wassalam, ils œuvraient pieusement afin d'obtenir la fermeté et d'être persévérants sur ce quoi ils étaient, comme bien et comme guidés. Et c'est donc eux que l'on doit prendre pour exemple dans cela. Dixièmement, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, il y a l'interdiction des choses mauvaises. L'interdiction des choses mauvaises. Car Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de manger les bonnes choses. Et il est important de préciser que les choses mauvaises sont celles déterminées par la législation et non pas ce que les gens trouvent mauvais. Car les goûts de chacun sont différents. Les goûts de chacun sont différents. Il n'est donc pas possible de juger de cela en fonction des gens et en fonction de leurs goûts. Par exemple, beaucoup de gens sont répugnés par le fait de manger des sauterelles, alors que ceci est licite, comme il est venu dans le hadith. Mais les gens sont répugnés par cela, pourquoi? Car ils n'y sont pas habitués. Ceci est donc une répugnance naturelle, car tout homme répugne ce qu'il n'a pas l'habitude de manger. Et à l'inverse, il y a des gens qui mangent tout ce que tu leur donnes. Tout ce que tu leur poses devant eux, ils le mangent. Et c'est pour cela que pour déterminer si une chose est bonne ou mauvaise, on doit revenir à quoi? À la législation, au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et non au goût et aux raisons des gens. Onzièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a l'improbabilité que celui qui mange de l'illicite soit exaucé lorsqu'il invoque, car ceci fait partie des empêchements à l'exaucement de l'invocation. Cependant, est-il impossible qu'il soit exaucé? La réponse est non. Ce n'est pas impossible, mais cela est peu probable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de cela, et ce afin que les gens s'écartent de l'illicite dans la nourriture, la boisson et les vêtements. Deuxièmement, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, il y a le fait que le voyage fait partie des causes de l'exaucement de l'invocation, comme on l'a vu dans le hadith que l'on a cité. Treizièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a le fait que d'avoir les cheveux ébouriffés et d'être plein de poussière sont aussi des causes de l'exaucement des invocations. Mais il est important de savoir que ce qui est visé ici, c'est le fait que la personne, elle a donné ici plus d'importance à quoi? À ses affaires religieuses, à son invocation, qu'à ses affaires mondaines et à son apparence. C'est ce qui est visé par cela dans le hadith. Quatorzièmement, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, il y a le fait que lever les mains fait aussi partie des causes de l'exaucement de l'invocation. Et ceci a lieu en joignant tes deux mains à hauteur de la partie supérieure de la poitrine. À hauteur de la partie supérieure de la poitrine. Et ici, on peut se poser une question. Qui est-ce que lever les mains est légiféré à chaque invocation? La réponse est que l'invocation se divise en trois catégories à ce sujet. Premièrement, celle au sujet de laquelle le fait de lever les mains est rapporté. Alors dans ce cas, ceci est légiféré lors de l'invocation du Qunut, lors de l'invocation à Safa et Marwa et autres situations semblables. Dans ces situations-là, il est légiféré de lever les mains lors de l'invocation. Deuxièmement, l'invocation au sujet de laquelle il est rapporté de ne pas lever les mains. Comme lorsque l'imam invoque lors du sermon du vendredi, en dehors de l'invocation de demande de pluie. Il ne doit pas lever les mains pour cela. Un compagnon a vu un homme lever les mains en invoquant durant un sermon. Il lui a alors dit « qu'Allah enlaidisse ses deux mains ». Qu'Allah enlaidisse ses deux mains. Et ce, car il n'avait jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire cela. De la même manière, il n'est pas légiféré de lever les mains lorsque tu invoques dans la prière, comme durant le teshahoud par exemple, et ceci est évident pour tous. Troisièmement, il y a l'invocation au sujet de laquelle il n'est pas rapporté de lever les mains, ni de ne pas les lever. Alors dans ce cas, la base est que l'on peut les lever, car ceci fait partie des bienséances relatives à l'invocation et c'est une cause d'exaucement, comme on l'a vu dans le hadith, comme par exemple entre l'adhan et l'iqama. Entre l'adhan et l'iqama, il n'est pas rapporté de lever les mains, mais il n'est pas rapporté non plus de ne pas les lever. Donc la base est que l'on peut les lever. Quinzièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a la preuve et la confirmation de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, vers où a levé ses mains celui qui invoque? Il a levé ses mains vers le ciel, en direction du ciel. Et ceci nous prouve que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de son trône, au-dessus des cieux. Seizièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a le fait qu'il fait partie des causes d'exaucement d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en faisant référence à sa seigneurie, comme dans le hadith « Ya Rabb, Ya Rabb, ô Seigneur, ô Seigneur ». Et comme on l'a dit, la majorité des invocations du Coran, elles commencent ainsi. Et il est fortement recommandé pour le musulman, lorsqu'il veut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de l'invoquer par ses invocations qui sont présentes dans le Coran ou rapportées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ces invocations, ce sont les meilleures des invocations. Et on doit prendre garde aux invocations inventées, aux invocations innovées ou celles qui comprennent souvent de l'exagération ou autre chose répréhensible. Lorsque tu invoques, le mieux est que tu utilises les termes rapportés, ou bien dans le Coran, ou bien dans la sunna, sauf dans le cas où tu adresses une demande particulière à Allah subhanahu wa ta'ala te concernant et concernant une situation particulière. Enfin, 17e, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, il y a la mise en garde sévère contre le fait de se nourrir de l'illicite et que ceci est une cause de rejet de l'invocation, même si les causes de l'exaucement sont réunies. De plus, il est important de savoir que le fait de manger l'illicite est une cause pour que l'homme se détourne de ses obligations religieuses. Car le fait de nourrir le corps d'une chose corrompue, cela influe sur celui-ci et cela corrompt également. Cela corrompt également quoi ? Cela corrompt également le cœur. De la même manière que le fait de manger des bonnes choses aide à accomplir des œuvres pieuses, manger des choses mauvaises aide à commettre des mauvaises actions. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de cela et de nous pardonner pour nos manquements. Ceci sont donc quelques bénéfices que l'on tire de ce hadith. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la mise en pratique, car c'est ainsi que l'on fera que ces assises soient une preuve pour nous et non pas contre nous. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayrah.